Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette, qui est bien présente derrière ce micro et qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Probablement que vous êtes comme moi, quand vous revenez d'un long séjour de vacances, si vous avez la chance d'en avoir, vous êtes un petit peu rouillé au retour au travail. Donc, assez facile de se mettre dans la peau de gens qui se sont absentés après plusieurs mois ou même parfois plusieurs années d'absence suite à un congé de maladie, que ce soit dû à une maladie physique d'ordre plus psychologique ou même à un épuisement professionnel. On peut penser à du stress, de l'insécurité et de la difficulté à reprendre sa place, à se réapproprier ses tâches également. Comment réintégrer le travail après un congé de maladie? Louise Saint-Arnaud, directrice de la chaire sur l'intégration professionnelle et l'environnement psychosocial de travail de l'Université Laval, et également auteur-chercheur, sera là en deuxième partie d'émission pour nous aiguiller un petit peu sur le sujet. Mais d'abord, en Espagne, la sieste est un moment privilégié, presque sacré. La pause du dîner prend plusieurs heures. Au Japon, même ça, on pourrait être plus étonné. De nombreuses entreprises l'ont rendu obligatoire, la sieste, également en Chine. Et plusieurs compagnies, dont entre autres Google, ont instauré la sieste pour leurs employés. Mais malgré ces initiatives-là, je pense qu'on peut admettre qu'en Amérique du Nord, la sieste n'a pas vraiment bonne réputation, bonne presse dans notre culture. Et pourtant, elle a de nombreux bienfaits. J'en parle à l'instant avec Roger Godbout, professeur en psychologie et responsable de la clinique et du laboratoire du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Bonjour, Roger Godbout.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie et responsable de la clinique et du laboratoire du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et Roger, je pense qu'il faut admettre que piquer un petit somme là, au travail au Québec, c'est pas encore nécessairement bien vu, même on pourrait dire partout en Amérique du Nord. Et pourtant, et là bien sûr je parle des adultes, il y a des bénéfices.
Effectivement, c'est pas quelque chose qui est reconnu ou qui est apprécié, je dirais. On sait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui font des siestes, y compris dans leur bureau à tout moment de la journée. Les gens qui font des siestes, on peut les estimer à peu près à 10% de la population qui font vraiment régulièrement des siestes. Et ils en tirent des bénéfices. D'une part, pour ces gens-là, ces adultes-là, ils en tirent un bénéfice parce qu'il semblerait que leur rythme biologique, c'est-à-dire cette horloge dans le cerveau qui commande l'agencement des maximums et minimums de nos fonctions, là, cette horloge-là commanderait ces gens-là de façon un peu plus impérative un besoin de dormir au cours de la journée.
Mm-hmm.
Et les bienfaits qu'ils en tirent sont un peu les bienfaits que tous peuvent en tirer, c'est-à-dire une détente, un bien-être, un repos. Et d'après moi, ces effets-là, plus psychologiques, je dirais, sont subjectifs et n'ont pas nécessairement un rapport au sommeil lui-même. Bien souvent, ça va être en rapport avec le plaisir de s'être retiré de la cohue du travail, de son patron toujours sur son dos, etc., ou de la clientèle exigeante. Ça me donne une petite pause.
Ouais. Mais il n'y aurait pas quelque chose aussi dans la baisse du stress?
Oui, effectivement, le fait de se retirer justement du milieu de travail ou d'occupation préoccupante ou de situation conflictuelle va faire que ça va baisser le stress un peu, ça nous donne une petite pause. Je compare ça un peu, sans vouloir être vulgaire, là, mais de prendre une pause aux toilettes, par exemple, ça peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas agresser, on ne se fait pas demander des questions, on est retiré un peu de la circulation, et c'est ce qui fait du bien.
Oui, je lisais, et vous me dites si ça a du sens, ça fait aussi des employés plus productifs, plus créatifs.
Ça, on le sait moins un petit peu. C'est-à-dire que les gens qui font des siestes seraient peut-être des gens qui sont plus créatifs, mais c'est peut-être pas parce qu'ils font des siestes, mais parce qu'il y a une cause commune à ces deux phénomènes-là, le fait d'être créatif et de faire des siestes.
Mm-hmm.
Par contre, le fait d'en faire une sieste, ça a des effets physiologiques connus, par exemple, en améliorant nos temps de réaction. On a fait des tests, nous, par exemple, en laboratoire, en proposant des siestes de 20 minutes à des sujets, et on remarquait qu'après une sieste, pas immédiatement après, parce qu'il y a une petite période de somnolence dans les 2-3 minutes qui suivent notre réveil, mais après une sieste de 20 minutes, les gens étaient plus rapides un peu à répondre à des signaux sonores et visuels. Leur temps de réaction était amélioré.
Roger, ce que l'on sait un petit peu plus, c'est que les siestes, ça peut être assez bénéfique pour les enfants.
Pour les enfants, c'est non seulement bénéfique, mais ça fait partie un peu de leur physiologie, je dirais. Au départ, un enfant un tout petit, là, même avant un an, l'enfant aura des cycles d'environ 3-4 heures de sommeil et d'éveil parce qu'il aura besoin de se nourrir. Alors, il dort par intermittence, puis il a besoin de se nourrir, parce qu'on se réveille, puis on dort, puis ces périodes de sommeil sont quand même assez courtes parfois. Les parents peuvent en témoigner. À mesure qu'on vieillit, on fait de moins en moins de siestes. Et à l'âge préscolaire, l'enfant va dormir 11 à 12 heures, mais il y aura à peu près la moitié de ces enfants-là qui feront des siestes d'environ une heure, deux fois dans la journée. Et ça diminue ainsi jusqu'à l'âge scolaire. Puis là, quand l'école commence, ben, on n'a plus le choix, on ne fait plus de siestes. Le besoin est peut-être là. Le bienfait serait sans doute là, mais on n'a plus le temps parce qu'on a des horaires maintenant. Et ça resynchronise nos rythmes de sorte qu'on a une seule période de sommeil bien consolidée pendant la nuit.
Roger, je reviens quand même aux adultes, à savoir, c'est quoi les... Parce que pour les enfants, on le sait plus, ils vont à la garderie ou en service scolaire, et bon, l'horaire est un petit peu plus régi, mais pour les adultes, là, à quel moment il est préférable de faire la sieste?
Bien, si on doit absolument faire une sieste, ce serait de la faire avant l'activité qui nous inquiète, je dirais. Si je dois prendre la route... Après n'avoir dormi que quelques heures, d'avoir raccourci mon temps de sommeil de façon importante, il me manque 3, 4, 5 heures de sommeil, mais de faire une sieste d'une petite demi-heure, peut-être même un peu plus, ça va effectivement augmenter ma vigilance pendant une certaine période de temps. Pendant l'heure ou les 2 heures qui suivent, ça va m'aider. Mais tôt ou tard, ce manque de sommeil-là va quand même se manifester. Habituellement, quand on veut faire une sieste, parce qu'on veut rattraper le sommeil perdu pendant la nuit précédente, juste parce qu'on veut se reposer, le samedi par exemple, ou le dimanche, on a moins de travail, on peut se reposer un peu. Le fait de faire une sieste peut hypothéquer la nuit suivante parce qu'on va tout de suite rembourser ou prendre du sieste, le voler à la nuit qui suit. Et à ce moment-là, la nuit qui suit risque d'être un petit peu moins bonne sans qu'on s'en rende compte subjectivement nécessairement, mais les tests de temps de réaction, les tests expérimentaux montrent que ça a un impact. Notre sommeil est un peu plus fragmenté. Alors on dit toujours, on conseille toujours de prendre une sieste pas plus de 20 minutes.
OK. Et ça, est-ce que ça peut empêcher de se sentir un peu... J'utilise l'expression « collé ». Tu sais, parfois, on se réveille de la sieste puis on se sent plus fatigué qu'avant.
Oui, effectivement, ça dépend un peu du moment où on prend notre sieste. Quand on fait une sieste en début d'après-midi, là où notre somnolence est la plus grande d'ailleurs, eh bien, c'est la période où on risque plus de faire du sommeil lent profond. Or, il est difficile de se réveiller du sommeil lent profond. C'est un sommeil pendant lequel la respiration est ralentie, le cœur bat moins vite, les ondes cérébrales sont très, très lentes et amples. Donc, ce sommeil qui est très, très profond. Et quand on s'en réveille de ça, c'est un peu plus difficile, on est un petit peu plus moche.
Okay.
Quand on fait des siestes un peu plus tôt dans l'avant-midi ou un peu plus tard dans la journée, on va se réveiller un peu plus rafraîchi.
Mais pas plus de 20 minutes.
Pas plus de 20 minutes parce que sinon, on va hypothéquer la nuit qui s'en vient.
Et pour les personnes âgées, c'est important aussi de faire la sieste parce qu'on a l'impression qu'ils dorment moins. Qu'on dort moins en vieillissant.
On dort effectivement moins en vieillissant, mais plusieurs personnes vont répartir leur sommeil en plusieurs périodes. Se coucher pour la nuit, se réveiller un peu, faire des trucs dans la maison, se recoucher, se réendormir. Il y a des gens qui font ça d'ailleurs à partir du moment de la retraite sans être âgés nécessairement. Parce qu'on a moins de synchroniseurs externes. On n'utilise plus le cadran, on n'a pas d'horaire de travail, on n'a plus l'air conduire les enfants à l'école ou à la garderie, on n'a pas de repas à préparer pour quelqu'un d'autre nécessairement, ou en tout cas c'est plus facile d'adapter son horaire, de sorte que les périodes de sommeil sont moins consolidées et moins longues tout d'un bout. En vieillissant, on est moins capable d'avoir de longues périodes de sommeil. Tout d'un bout, on est plus sensible à la douleur, on est plus sensible au bruit, la douleur parce qu'on a toutes sortes de petits bobos en vieillissant, on est plus sensible au bruit, donc on a plus de misère à rester endormi, il y en a plus de mal un petit peu à se rendormir.
Et en terminant, Roger Godbout, si on veut faire dodo au bureau, on ferme la porte, on se couche la tête sur le bureau, je veux dire, on n'a pas toujours les infrastructures là, possibles.
Non, on n'a pas besoin d'avoir un lit mural qu'on descend dans son bureau pour faire de la sieste, mais on peut effectivement reposer sa tête sur le bureau, puis se laisser aller un peu, se détendre. Même si on ne dort pas, ce n'est pas grave. Le simple fait de se détendre, de se donner quelques minutes à soi, ça peut faire du bien. La relaxation technique, relaxation de toutes sortes, serait aussi bonne d'ailleurs.
Et là, je vais réveiller mon metteur en onde, Jean-Sébastien Laliberté, qui faisait une petite sieste. Et on va aller, nous, en courte pause. Roger Godbout, professeur en psychologie et responsable de la clinique et du laboratoire du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler. C'est pas endormant du tout.
Plaisir partagé. Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Louis Saint-Arnaud, bonjour.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes directrice de la chaire sur l'intégration professionnelle et l'environnement psychosocial de travail de l'Université Laval. Vous venez de publier chez Caractère un bouquin qui s'intitule « Retour au travail après un congé de maladie ». Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez sur le sujet. C'est, j'imagine, ce qui vous a permis de garnir votre livre de récits basés sur des expériences vécues. Et on peut constater aussi dans votre livre, bon, souvent on associe congé de maladie à des raisons d'ordre peut-être de soucis physiques ou de maladies liées plus maladies mentales, mais vous allez plus loin dans votre livre. Il y a d'autres raisons liées au congé de maladie.
En fait, quand on regarde, pour une bonne partie des personnes, en fait, quand on y pense, lorsqu'on s'absente du travail, c'est parce qu'on n'est plus capable de le faire, ce travail-là. Mmh. Et pour plusieurs personnes, il y a un lien direct entre la détérioration de leur état de santé et ce qu'ils ont vécu dans le cadre du travail. On pense aux personnes qui sont soumises à des situations de surcharge de travail, à des situations de harcèlement. Donc, le lien est fort avec ce que l'on vit dans le travail.
Et vous allez même, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que parfois, c'est d'ordre éthique, c'est l'aliénation également. Vous dressez des figures de cas là, dans tous ces sens-là.
Oui, on a, en fait, le travail au cours des dernières années s'est beaucoup transformé. Et on est beaucoup centré sur une augmentation de la productivité qui nous amène dans certains cas à avoir de la difficulté à prendre certaines décisions, à ne plus être capable de faire du bon travail, du beau travail, ou encore à se mettre dans des positions qui vont complètement à l'encontre de nos valeurs. Et ça, ça a des effets sur la santé.
Oui. Ce que je constatais à la lecture de votre livre, Louis Saint-Arnaud, c'est bon, j'avais l'impression que dans certains cas, on tardait trop à s'absenter ou à prendre une pause, et ça, c'est ça qui nous menait à l'épuisement.
C'est un peu un cercle vicieux. On a dans certains milieux, notamment lorsque la surcharge fait aussi partie de la culture de métier, pour être vu, pour être bon, il faut être occupé, il faut vraiment donner, il faut se donner. Ça devient difficile à ce moment-là d'engager le processus de retrait du travail. Dans certains cas, on a peur aussi lorsqu'on est dans un milieu très précaire. On sait, on risque, on craint de ne pas pouvoir revenir au travail, et c'est ce qui va faire que plusieurs personnes vont vraiment résister, retarder.
Et pourtant, plus on retarde, plus le retour est difficile.
Oui, plus on retarde, et dans certains cas, plus ça devient aussi difficile. Moi, j'ai vu des gens brûler un peu le terrain avant de partir, avoir tellement retardé qu'ils ont finalement quitté dans un état vraiment très détérioré. Ils ont aussi engagé un rapport difficile avec leur milieu de travail avant de partir.
Oui. Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs que l'on peut identifier et se dire, OK, là, je pense qu'il est temps de me retirer?
Oui, on va sentir la fatigue, les nuits qui deviennent de plus en plus courtes, on se réveille la nuit, on sent l'anxiété nous gagner. Mais dans certains cas, la situation, en fait, on est souvent très fort, on veut poursuivre, et ces signaux-là sont souvent sourdines. La capacité d'être en contact avec ces signaux-là n'est pas toujours possible. Mm-hmm. Le milieu, parfois, nous amène vraiment à taire tous ces signaux-là. Et même s'ils sont présents, ils sont pas nécessairement, on n'est pas nécessairement en contact avec eux ou on les écoute pas, mais ils sont là.
Le milieu, et je me demandais aussi, Louis Saint-Arnaud, s'il n'y a pas une question de personnalité, s'il n'y a pas des personnalités qui sont plus sujets à se rendre à l'épuisement professionnel, ou si on est vraiment tous égaux devant cette situation-là?
C'est sûr qu'on a tous une personnalité, des variables individuelles, elles sont là, elles vont jouer. Mais en même temps, sur la question souvent de l'épuisement professionnel, elle est beaucoup liée aussi à l'engagement. Et l'engagement est aussi lié à l'effort considérable qu'on va devoir mettre au travail pour continuer parfois à produire un travail de qualité, donner un sens au travail. Et donc, les personnes qui s'épuisent, c'est aussi les personnes qui sont préoccupées par ce qu'elles font.
Okay.
Il y a un lien qui est... C'est pas coupé, ces deux choses-là. Lorsqu'on y met, on y remet, c'est aussi parce qu'il y a une préoccupation. Et ce qu'on voit beaucoup, de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, moi, je le vois beaucoup dans nos milieux de travail, c'est un ensemble de conditions qui nous amènent à accepter de tourner les coins ronds. Et ça, c'est coûteux. Et souvent, c'est l'hyperactivité qui est la réponse à ces conditions, ces situations-là. Alors, je suis un peu prudente quand on me parle de personnalité plus à risque. Je mettrais ce bémol-là du côté du lien qui est à faire avec la qualité de l'investissement qu'on a au travail.
Mm-hmm. Mais bon, plus on est engagé dans notre travail, plus on est peut-être, comme vous semblez le dire, sujet à un épuisement professionnel, mais en même temps, on ne veut pas valoriser le fait de faire des coins ronds non plus.
Non, tout à fait. Et c'est important de s'engager parce que c'est aussi le mode d'investissement. Quand on aime son travail, ouais. Il y a un lien aussi. La santé dans le travail, elle est très liée avec la possibilité d'aimer ce que l'on fait, de réussir à faire de beau travail, de le partager avec les autres. Et si on fait le pendant du côté de la santé, qu'est-ce qui fait que le travail, c'est la santé? C'est aussi la qualité de l'investissement qu'on a. Donc, c'est vraiment le couteau à double tranchant.
Oui, tout à fait. Louise Nintarneau, je le disais tout à l'heure, ça fait plus de 15 ans que vous vous intéressez à cette question-là. Vous êtes psychologue à la base, mais vous notez tout de même qu'il semble y avoir plus de taux d'absence liés notamment à des raisons psychologiques. Donc, le milieu du travail, bien sûr, n'est pas nécessairement plus sensible.
Non, mais je vous dirais que les transformations actuelles, l'intensification du travail, je vous dirais aussi une forme de précarisation dans nos conditions de travail, oui. L'augmentation du nombre des travailleurs autonomes entraîne aussi toute une série d'augmentation des risques à la santé et on le sent dans l'ensemble des milieux de travail. On a des secteurs d'activité extrêmement riches, je pense au milieu de la santé, services sociaux, les infirmières, nos enseignants qui sont dans des secteurs d'activité très riches. Oui. Et faut quand même se poser des questions lorsqu'on se retrouve avec des clientèles comme celle-là en épuisement. Il y a vraiment un lien qui est fait avec la détérioration de nos conditions de travail. On a à y voir.
Oui. Dans votre livre « Retour au travail après un congé de maladie », justement, vous avez quand même une certaine vue critique sur le milieu du travail. Est-ce qu'il y a des nouvelles façons d'aborder le travail? C'est quoi la responsabilité des employeurs?
Mais de plus en plus, certaines entreprises ont décidé de prendre en main ces nouveaux problèmes-là et d'engager des activités à la fois de prévention, mais aussi de revoir, de s'intéresser à qu'est-ce qui dans le travail permet d'être en santé et donc aussi de soutenir les personnes qui reviennent au travail en revoyant. En faisant le lien avec les éléments qui ont pu les mener à cet arrêt de travail. Et on a des nouvelles perspectives, des nouvelles façons d'intervenir. C'est aussi important pour l'intégration des nouveaux, pour le climat de travail. Quand on agit sur les facteurs qui facilitent le retour, on agit sur l'ensemble du climat de travail. C'est très lié, ça.
Oui. Et parlons-en justement de ce retour-là. C'est un long processus pour la personne qui a quitté en raison, bon, on les a nommés tout à l'heure, là, ça peut être des raisons d'ordre plus d'une maladie physique ou psychologique, du harcèlement. Comment on s'y prépare? C'est pas la veille du retour, là, c'est un long processus.
On a beaucoup d'anticipation. Pendant qu'on est en arrêt de travail, on pense à notre travail. Surtout, dans certains cas, on a vraiment, pendant l'arrêt de travail, vécu une détérioration importante de son état de santé. Et plusieurs se demandent, est-ce que je vais arriver à performer autant? Est-ce que je vais arriver à reprendre? Est-ce que je vais être encore capable? Donc, cette anticipation, elle est là. Et on doit travailler sur l'anticipation pendant le processus de rétablissement. Pas attendre le lundi matin du retour. En travaillant ces anticipations-là pendant l'arrêt de travail, on agit même sur le rétablissement. Mm-hmm. Quand on commence à sentir qu'on peut agir sur le travail, qu'on peut voir, on peut reprendre un peu le contrôle sur ce qu'on va faire, on commence vraiment à sentir qu'on reprend un peu plus la main. Et moi, j'ai rarement vu des personnes me dire, oh, j'ai assez hâte de revenir lundi, ça fait longtemps que je suis en arrêt. La crainte, elle est là. Et c'est progressivement... Les personnes, parfois, j'ai certaines personnes qui vont me dire « Oh, moi, j'attends d'être complètement rétablie avant de revenir. » Non, le processus de rétablissement se fait aussi dans le travail comme tel. Donc, on a vraiment tout un processus de réintégration qui va se faire de jour en jour dans le milieu.
Mais j'imagine aussi, Louis Saint-Arnaud, que ça dépend comment on a quitté le travail. Je fais un parallèle avec une maman qui quitterait pour un congé de maternité. Souvent, bon, la dernière journée avant le départ pour ce congé-là, c'est positif. On laisse le travail sur une bonne note. Donc, après 9 mois ou 1 an, on a envie d'y retourner. On s'est ennuyé de nos tâches, de nos collègues, de la dynamique de travail. C'est différent, j'imagine, quand on quitte pour un congé de maladie, les dernières journées ont été difficiles.
Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens pour qui le processus de retour est beaucoup plus difficile parce qu'on a même quitté dans une situation difficile. On anticipe, quand on pense au travail, on devient anxieux parce qu'on anticipe revenir parfois dans une situation qui s'est même encore détériorée. Ou à la suite d'un conflit, à la suite d'un harcèlement. Donc, il y a vraiment, pour certaines personnes, il y a vraiment intérêt à revisiter ce milieu-là pour se préparer à revenir. L'accueil des collègues, le soutien du supérieur sont vraiment des clés importantes à ce moment-là pour nous aider à retrouver ce lien, à réirriguer, en fait, le goût de revenir dans ce travail-là, la confiance.
Ce qui m'a marqué dans votre livre, Louis Saint-Arnaud, bon, comme je le disais, là, c'est vraiment garni de figures, de cas réels. Et dans certains exemples, il y avait cette espèce de pensée-là, OK, je vais partir 1 ou 2 semaines, je vais aller en congé, je vais faire un peu d'exercice, puis quand je vais revenir, tout va être OK. Et finalement, ben, c'était souvent pire là, après une semaine ou 2 semaines de repos-là. Comment on fait pour savoir si on a besoin d'un congé de X temps ou de simplement quitter cet emploi-là de façon définitive?
C'est sûr qu'il y a la possibilité, en fait, souvent quand on va quitter de façon définitive, c'est parce qu'on sait qu'on n'est plus capable de changer ou d'avoir l'accommodement ou d'avoir l'aide nécessaire pour reprendre le pas. Modifier certains éléments et pour certaines personnes, il devient très, très clair que le milieu ne va pas changer. Le milieu reste exactement le même et là, dans certains cas, mieux vaut commencer à réfléchir et voir est-ce qu'il y a une possibilité d'aménager ou parfois d'aller vers quelque chose qu'on a toujours voulu faire. C'est certain que ces questions-là peuvent se poser et elles sont beaucoup liées à la capacité de contrôle un peu qu'on peut avoir sur ce qui se passe dans ce milieu-là.
Vous parliez de l'accueil des collègues suite au retour. Il faut aussi s'attendre parfois, dans certains cas, à affronter certains préjugés. Bien sûr, on ne les souhaite pas. Pour les éviter, est-ce qu'on doit être vraiment transparent, tout dire à l'employeur, tout dire aux collègues, j'ai quitté pour telle raison, ou on se garde plutôt un petit mystère?
Je pense que ça dépend du lien de confiance qu'on a avec les personnes. Moi, j'ai certaines personnes qui avaient un lien de confiance suffisamment important. Et lorsqu'on peut divulguer certaines informations, on peut aussi mieux accéder à un soutien, à de l'aide. Mais dans d'autres cas, il a été jugé plus judicieux de ne pas nécessairement nommer. Et certaines personnes n'ont pas nécessairement envie qu'on entre dans leurs problèmes de santé. Donc, c'est vraiment aux personnes à sentir, à voir. Mais on peut aussi beaucoup avoir de l'aide, agir en essayant de voir ce qu'on est capable ou pas capable de faire sans nécessairement déballer toute notre histoire de la maladie. Mm-hmm. Et c'est pas nécessairement, on n'a pas, pour intervenir dans le milieu de travail, on n'a pas besoin de savoir quelle était la nature de la maladie. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, ce sur quoi on a besoin d'aide, sans nécessairement entrer dans cet espace-là. Pour d'autres, c'était vraiment important de, de, d'en parler et d'avoir, de sentir en fait qu'ils étaient capables d'être aidés, écoutés, soutenus.
Oui.
Et tout dépend évidemment de la situation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de sentir puis de juger soi-même de ce qu'on considère comme étant la meilleure piste pour soi. Il n'y a pas de recette magique.
Oui. Au même titre que j'imagine pour le retour progressif ou pour un retour complet, ça dépend des cas aussi.
Bien, souvent, le retour progressif, c'est quand même une mesure extrêmement aidante. Mais il faut faire attention parce que souvent, le retour progressif, c'est un retour dans le temps. Je reviens lundi, mercredi et puis vendredi. Mais on revient, revenir progressivement sur charge de travail, c'est pas très progressif.
Ouais.
Donc, il faut surtout s'assurer qu'il y a une progression, pas seulement dans le temps, mais aussi dans le contenu, dans la tâche. Et ça, c'est vraiment des défis. Et c'est pour ça que c'est important de préparer ces conditions avec son supérieur, s'assurer aussi que les collègues sont pas nécessairement pris à partie dans ça. Quand on sait qu'on revient puis que notre collègue, c'est lui qui va se taper le boulot qu'on n'est pas capable d'assumer, on se sent un peu mal. Donc ça, c'est pas des conditions idéales. Idéalement, il faut aussi, si on a été remplacé, si quelqu'un nous a remplacé pendant l'absence, idéalement, c'est que cette personne-là soit encore là un bout pour nous permettre d'avoir une vraie progression.
Oui. Et il y a le retour au travail et après, il y a le maintien au travail dans le temps. Ça, est-ce qu'il y a des ressources qui sont proposées par l'employeur?
C'est intéressant que vous en parliez parce que souvent, nos objectifs dans les entreprises, l'objectif de l'organisation, c'est de diminuer les durées d'absence et de favoriser des retours et des retours le plus rapide, plus rapidement possible.
Mm-hmm.
Et je vous dirais, en fait, l'idée, c'est pas tant d'assurer un retour rapide, mais d'assurer un retour réussi. Un retour réussi, il se qualifie par la capacité de se maintenir et de retrouver sa capacité de faire, retrouver sa place. Donc, ce qui va nous aider à se maintenir, c'est le moment où est-ce qu'on va retrouver sa place, on va retrouver un certain plaisir dans le travail, on va recommencer à pouvoir s'investir, faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. C'est pas juste le fait d'être là, de revenir, il faut voir aussi ce que l'on fait.
Mm-hmm. En terminant, Louise Saint-Arnaud, on a parlé rapidement des travailleurs autonomes. Est-ce, bon, dans justement ce changement un petit peu dans le milieu du travail, est-ce qu'il y a des mesures de l'aide pour eux?
On sait, hein, effectivement, nos travailleurs autonomes, pour une bonne partie, ce sont des travailleurs autonomes qui sont en situation non choisie. C'est souvent imposé par le contexte actuel et donc beaucoup moins soutenu par plusieurs mesures, ne serait-ce que les congés de maladie, on les prend à nos frais. Donc, on voit chez les travailleurs autonomes qu'on retarde avant de s'absenter. Je vous dirais, peut-être l'intérêt aussi, c'est comme travailleurs autonomes, on a peut-être certaines marges de manœuvre sur ce qu'on peut choisir.
Oui.
Et donc, c'est peut-être le côté positif. Mais en même temps, il y a aussi plusieurs défis pour les travailleurs autonomes. J'en conviens tout à fait.
Oui. Pour en savoir davantage, on lit votre livre « Retour au travail après un congé de maladie ». C'est publié aux éditions Caractère. Et je rappelle, Louise Saint-Arnaud, vous êtes directrice de la chaire sur l'intégration professionnelle et l'environnement psychosocial de travail de l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler.
Merci, Mme Paquet.
Bonne journée.
Merci.
Merci, Jean-Sébastien Laliberté. C'est un plaisir de travailler avec toi. On se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.